marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée en public au cœur du château de la ville de Caen à l'occasion de son millénaire, 1000 ans d'histoire et d'héritage pour une année riche en festivités, des spectacles, des expositions, des concerts, mais aussi toute une semaine dédiée au meilleur de la recherche scientifique avec des journées de l'histoire auxquelles RFI est très fière de s'associer. Car c'est ici en Normandie que les universités du monde entier se sont donné rendez-vous le 1er juin 1957 pour inaugurer un campus flambant neuf dans un même élan de solidarité internationale.
La nouvelle université de Caen, bâtie à la mesure de ses 4000 étudiants et dont la seule bibliothèque possède 300 000 volumes, compte comme la plus moderne d'Europe. Elle remplace aujourd'hui celle qui fut détruite lors de la campagne de Normandie. Inaugurée par le ministre de l'Éducation nationale, elle a accueilli les représentants de presque toutes les universités du monde. De nombreux organismes internationaux ont d'ailleurs contribué au financement de sa construction. Mais on remarquait surtout la reine Élisabeth de Belgique, qui a été l'inspiratrice du comité belge pour la résurrection de Caen. C'est à la solidarité internationale qu'aura donc surtout été dédiée la séance solennelle qui s'est déroulée dans la cour d'honneur de la nouvelle université. Le cortège des universitaires en costume traditionnel qui s'est déroulé dans les rues en a souligné avec éclat la résurrection.
Merveilleuse archive de l'INA à retrouver sur ina.fr afin d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la destruction et la reconstruction de la ville de Caen en général et de son université en particulier. Alors pour nous en parler, j'ai convié des canets de cœur, Louise Daguet, responsable du département des ressources documentaires de l'université où se trouvent des trésors d'archives écrites et photographiques à retrouver d'ailleurs sur la page de la Marche du Monde. Et du coup, vous êtes également responsable de la fameuse BU, la bibliothèque universitaire. Bonjour Louise.
Bonjour Valérie.
Combien d'étudiants sont accueillis aujourd'hui sur le campus de Caen, puisqu'on vient de l'entendre dans cette archive? La première année, en 1957, ils étaient 4000, on a un public qui suit.
Alors aujourd'hui, ils sont environ 20 000 sur le campus 1 de l'université, 35 000 dans toute l'université de Caen, tout campus confondu.
À vos côtés, Christophe Manœuvrier, bonjour.
Bonjour.
Christophe, vous êtes directeur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines et vous avez été vous-même étudiant à Caen en 1981, je sais tout. Qu'est-ce qui vous a plu à l'époque dans ce campus?
À l'époque, c'était le fait d'arriver à l'université surtout. Et puis c'était l'université proche de chez moi puisque mes parents, ma famille habitaient pas très loin de Caen.
Qu'est-ce qui était sympa justement dans cette université? Qu'est-ce qui vous a plu?
À tout.
C'est-à-dire?
La vie sur le campus, le fait de, déjà quand on est un petit gars de la campagne, découvrir la ville, découvrir l'université, la vie culturelle, la bibliothèque évidemment.
Et je suis ravie d'accueillir également Jean-Luc Leleux, historien au CNRS et enseignant-chercheur à l'école de guerre à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et je sais que vous avez longtemps enseigné à l'université de Caen.
Alors, enseigner, j'ai surtout fait de la recherche parce que je suis historien au CNRS et j'étais, avant de rejoindre l'école de guerre, j'étais à la maison de la recherche en sciences humaines sur le campus 1 de l'université de Caen.
Voilà, donc je vous l'avais dit, trois canets de cœur. Alors, vous qui êtes un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous pensez de l'omniprésence de ce débarquement de juin 1944 dans notre mémoire collective? C'était sur les plages de Normandie, à quelques kilomètres de la ville de Caen, je le dis pour nos auditeurs, qui sont parfois très très loin de Caen. Est-ce que cet événement spectaculaire, ultra médiatisé par le cinéma notamment, ne fait pas écran à d'autres faits historiques majeurs, comme justement ce dont nous nous proposons de parler aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction et la reconstruction de la ville de Caen?
Oui, effectivement, l'épopée a tendance à dissimuler ce qu'est la réalité de la guerre, c'est-à-dire la violence, les destructions, les pertes humaines, les souffrances. C'est toujours très bien de commémorer. On en a encore eu un très bel exemple l'année dernière, en 2024, pour commémorer le le 80e anniversaire des opérations militaires et du débarquement en Normandie. Mais il faut avoir conscience que derrière ces commémorations, si belles et si nobles soient-elles, eh bien, il ne faut jamais oublier le sens profond de cette guerre. Et quelque part, l'actualité nous rapproche justement de ces devoirs, parce que cela conduit à des sacrifices de part et d'autre. Et c'est aussi cela le prix de la liberté.
Et c'est vrai que c'est une histoire qui a été surmédiatisée, qui a fait l'objet de scénarios fantastiques, bien sûr. C'est la lutte du bien contre le mal. Et les films, notamment hollywoodiens, ont complètement exalté cette histoire du débarquement, Jean-Luc Leleu. Mais vous vous dites qu'il faut, au fond, retrouver cet événement, le remettre à sa place dans l'histoire.
Oui, tout à fait, parce que bien évidemment c'est un événement important, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, quelque part, la mémoire tend à occulter finalement l'histoire, en ce sens où il y a eu beaucoup de débarquements pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une opération parmi tant d'autres. Et puis, est-ce que c'est une opération qui fut si décisive pour l'issue de la guerre? Non, pas vraiment, puisque la guerre, elle a été d'abord et avant tout perdue par l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. C'est l'armée rouge qui a subi aussi, qui a combattu et qui a subi de très lourdes pertes et qui a très largement contribué à la défaite de l'Allemagne nazie. Alors par contre, le débarquement allié en Normandie, c'est une opération décisive en ce sens où elle permet la libération effective de la moitié occidentale du continent européen, parce que c'est une chose d'avoir été libéré par l'armée rouge, c'est une autre chose d'avoir été véritablement libéré par les armées anglo-américaines.
Lorsqu'on regarde les chiffres, c'est extrêmement impressionnant. Vous soulignez dans vos articles scientifiques que près de 60% des 20 000 Normands tués le sont à l'été 44 par l'aviation alliée et que le 6 juin est précisément le jour le plus meurtrier pour la population basse normande.
Oui, alors là, on va quand même aussi rappeler une chose, c'est comment on arrive à ces chiffres. Avec un formidable travail d'enquête mené sur le terrain, à partir des registres d'état civil, des listes des monuments aux morts dans les communes, et donc un travail mené sous la direction de Jean Quélien et de Bernard Garnier, que je salue. Le résultat de cette enquête permet de bien restituer toute cette violence de guerre et de voir que, effectivement, comme vous l'avez dit, 20 000 civils tués au cours de l'été 1944 pour l'ensemble de la Normandie, et 14 000 à peu près, les deux tiers l'ont été par les bombardements alliés. Et donc là, on a des villes qui ont terriblement souffert. Alors, bien sûr, Caen, mais pas que. On a l'ensemble des villes qui se situaient plutôt à l'arrière du front, parce qu'il s'agissait de freiner l'arrivée des renforts allemands. Donc des villes comme Saint-Lô, comme Lisieux ont énormément souffert, avec à chaque fois plusieurs centaines de morts. Et puis des villes en Haute-Normandie, comme Le Havre ou comme Rouen aussi, qui ont été très fortement bombardées. Et puis on a on parle souvent des très grandes communes, ou en tout cas celles qu'on repère facilement sur les cartes, mais on a les petites communes aussi. C'est toujours ce qui est intéressant de voir, c'est le taux de mort par rapport au nombre d'habitants. Et là, la commune qui a le plus souffert pendant l'été 1944, eh bien, c'est une petite ville qui s'appelle Évrecy, qui se situe au sud-ouest de Caen. Et là, sur 460 habitants, 64 sont morts.
Alors avec toute l'équipe de la Marche du Monde, nous avons préparé de nombreuses archives sonores à partager avec vous, chers invités, chers publics et chers auditeurs de RFI. Tout de suite, un retour dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, une nuit infernale dans la mémoire des sœurs Casserolles, des adolescentes sous les bombes.
Vers 3-4 heures du matin, on a été réveillés, des avions qui passaient constamment. On ne savait pas ce qui arrivait, quoi. Et le premier bombardement, il a dû avoir lieu dans la banlieue, je ne peux pas vous dire exactement, mais on dit ça bombarde. Mais nous, le gros bombardement, c'est celui de 13 heures. Ça a été, il y a eu le théâtre qui a flambé, et les premières bombes, alors ça je ne l'ai pas vu, mais les premières bombes ont été rue des Jacobins. Et tout ce coin-là a été, vous savez, anéanti. C'est inimaginable ce que peut être un bombardement quand on est en dessous. Parce qu'on ne sait pas où se mettre. ça dégringole, c'était par fragments, quoi. Bon, alors on a profité d'un moment où il n'y avait plus d'avion pour aller dans ce refuge rue Pasteur, où il y a du monde qui arrivait. Et vous savez, à ce moment-là, j'ai toujours été frappée après, quoi. Personne pleurait, personne hurlait, comme quelquefois on voit. Ah! On était abasourdis. Il n'y avait plus de gens riches, ni de gens pauvres, ni rien du tout. On était obligés, on ne savait pas le matin si on allait vivre le soir. Donc, c'était très solidaire.
Personne ne pleurait, on était abasourdis, il n'y avait plus de riches, il n'y avait plus de pauvres. C'est un témoignage très émouvant face à la violence aveugle de la guerre, face aux bombardements stratégiques des Alliés. Pour quelles raisons ces bombardements sont-ils aussi meurtriers et destructeurs à l'époque, Jean-Luc Leleu?
Pour une raison qui concerne la planification de l'opération Overlord, c'est-à-dire le débarquement allié en Normandie, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour nous, le débarquement a réussi, c'est presque une évidence. Mais pour les acteurs, et notamment pour les stratèges alliés, c'était loin d'être une évidence. Le risque d'un échec était bien réel. Pour preuve, le général Eisenhower avait préparé pour le matin du 6 juin un message en cas d'échec. Donc c'était une réalité qui était dans toutes les têtes des généraux alliés. Et donc pour maximiser les chances de leur côté, de la réussite du débarquement, eh bien ils ont décidé de bombarder les centres-villes, environ une liste de 26 villes citées, nœuds routiers en fait, ont été sélectionnés avec la volonté de les bombarder pour que les ruines des communes perturbent l'arrivée des renforts allemands. Parce qu'un débarquement, une tête de pont, c'est d'abord et avant tout une sorte de course de vitesse entre les assaillants qui doivent renforcer leur tête de pont et puis les défenseurs qui amènent aussi des renforts. Et donc pour freiner l'arrivée de ces renforts allemands, il y a eu des bombardements sur les voies ferrées, sur les infrastructures routières et... C'est pour ça, par exemple, on a des bombardements extrêmement sanglants sur Rouen, parce que généralement, et sur Caen, parce que souvent, ce sont les ponts qui permettent d'enjamber les cours d'eau qui traversent les villes qui sont bombardés.
Alors, on l'a rappelé, hein, près de 20 000 civils ont péri lors de ces bombardements aériens ou des tirs d'artillerie. Les Français ont payé très cher leur libération et sont d'autant plus heureux de fêter le retour de la France libre. Incarné par un certain général de Gaulle, dont personne ne connaît encore vraiment le visage, en 1944, lorsqu'il vient ici, dans la ville de Caen, libéré le 9 octobre 1944.
Au nom de la France, j'ai l'honneur et l'émotion de saluer ce soir Caen, au milieu de ces ruines, est un symbole admirable, un symbole vaillant de tout ce que nous avons subi et de tout ce que nous devons faire. Ce que nous avons subi, ce que nous avons souffert, l'océan d'humiliation et de malheur d'où nous émergeons, chacun et chacune d'entre vous le mesure aussi bien que moi-même. Ce que nous devons faire, il n'y a qu'à regarder autour de nous pour le comprendre et le vouloir. Nous avons à gagner cette guerre, ce qui n'est pas encore fait. Nous avons à nous rebâtir, morceau par morceau, pont par pont, port par port, ville par ville, maison par maison. Nous avons à nous rebâtir, dis-je, pour être plus fort, plus puissant, plus grand que nous n'étions, rassemblés autour d'un seul drapeau, autour d'une seule patrie, le drapeau de la France, la patrie française.
La voix du général de Gaulle dans la marche du monde, un chef militaire très grand, en uniforme, avec un képi, que découvrent la plupart des canets enfin libérés, Jean-Luc Leleu. Faut bien se rappeler de ça quand même.
On va rappeler le surnom du général de Gaulle, c'est le général Micro. puisque nous sommes dans les années 40, la télévision fait ses balbutiements avec la première antenne justement qui est aux mains françaises, qui est aux mains des Allemands et qui est émise depuis le sommet de la tour Eiffel. Mais donc c'est vraiment la radio qui est le moyen de communication, le mass média avec la presse écrite aussi, mais qui va permettre justement de... au général, dès le 18 juin, à travers son appel, 1940, de susciter justement l'espoir d'une libération, d'une reconquête du territoire national. Donc oui, l'image du général, ils ne la connaissent pas. Par contre, sa voix, pour autant, ils la connaissent et ils la reconnaissent parce qu'elle est quand même, on est à la radio ici, elle est quand même reconnaissable entre toutes.
Absolument. Et c'est bien entendu un grand moment de joie, un moment d'euphorie que cette libération de la Normandie, puis de Paris, de la France et enfin de l'Europe et toutes sortes d'initiatives solidaires voient alors le jour pour faire face aux besoins immenses des Français, comme ici en Normandie, dans un village, cher public, que vous connaissez certainement, le village d'Éperon.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Il se trouve que le cadre dans lequel va se dérouler ce soir notre émission Le Changement de décor est particulièrement émouvant pour tous ceux qui s'occupent de radio. Vous savez mesdames, messieurs, que nous sommes en ce moment, à l'instant même, à Éperon, dans le village de la radio, ce petit village de Normandie qui était jadis si calme et si heureux et aujourd'hui hélas tout déchiqueté par la guerre, ce petit village d'Éperon dont tous les producteurs de la radio et moi-même vous avons si souvent parlé depuis quelques mois. Eh bien, mesdames, messieurs, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est dans une atmosphère de fête, de bonne humeur, d'amitié que va se dérouler maintenant notre émission habituelle de Changement de décor. Nous demandons à tous nos amis d'excuser évidemment les imperfections inévitables de cette émission et de cette transmission en plein air et de s'associer maintenant pendant quelques instants à notre joie et à celle d'Éperon, le village de la radio.
Vous êtes tout excusé, chers confrères. La radiodiffusion nationale libérée, elle aussi, du joug nazi et de la collaboration. La radiodiffusion qui mobilise ses auditeurs afin de recueillir des fonds pour la population du petit village d'Éperon. Et nous sommes le 25 décembre 1948.
La chaîne parisienne va interrompre quelques instants les émissions musicales que vous entendiez pour vous permettre d'écouter un message.
Un message de M. Trey, conseiller général de Caen Est, dont le village de la radio, le village d'Éperon, votre village, fait partie.
On comprend parfaitement que les auditeurs de la radiodiffusion française aient voulu que leur petit village fût choisi parmi les communes sinistrées du Calvados. Notre département, en effet, a payé le plus lourd tribut à la libération. Presque toutes ces villes et ces villages ont été détruits en tout ou partie. Son sol si fécond a été cruellement meurtri. Caen, qui eut le glorieux mais tragique privilège de constituer la charnière des opérations de débarquement, n'a conservé que ses quartiers extrêmes. Les communes voisines, notamment celles du canton Est, ont beaucoup souffert. Mondeville et ses hauts fourneaux, Saint-Comté, Hérouville-Saint-Clair, Cormel, Ifs, autant de noms qui évoquent de rudes batailles. Et enfin Éperon, qui s'est trouvé sur la ligne de feu dès le lendemain du débarquement et qui a reçu, vous disait-on l'autre jour, environ 200 000 obus. La coquette bourgade d'Éperon, sinistrée à près de 90%, a perdu son clocher, son orphelinat, ses bâtiments de ferme et d'habitation. Seules, deux modestes maisons sont restées intactes. Sur 225 habitants, il n'en reste plus aujourd'hui que 134. Logés parfois dans des conditions lamentables, car il n'y a pas eu de baraquement, d'ailleurs souvent inconfortable pour tout le monde, et certains, accrochés à leur sol, vivent encore dans des réduits ou dans des ruines. Il est impossible de décrire l'immense espoir apporté à tous ces habitants par l'heureuse initiative de la radio qui va permettre la reconstruction rapide de leur village. En ce jour de Noël, ils oublient le froid et leur misère. Ils songent déjà que l'an prochain, ils pourront peut-être, ce même jour, se trouver dans leur maison, comme autrefois, en famille, au milieu de leurs enfants, autour d'une vaste cheminée éclairée par un joyeux feu de bois. Ce rêve qu'ils n'osaient plus faire va devenir une réalité, grâce aux généreux donateurs auxquels ils expriment avec moi toute leur gratitude. Ce geste qui honore les Français, et qui, j'en suis sûr, sera poursuivi jusqu'à l'achèvement complet des travaux, constitue un bel exemple de solidarité envers les sinistrés. Le canton Est de Caen est heureux de pouvoir remercier tous ceux qui auront ainsi permis la reconstruction prochaine de sa commune la plus sinistrée. Il espère que tous, vous aurez passé un joyeux Noël.
Merci, Monsieur Trey.
Encore une formidable archive radiophonique de l'INA qui raconte l'histoire du village de la radio que vous connaissez bien, cher public, puisque l'on parle d'un petit village situé tout près de la ville de Caen où nous enregistrons cette émission. Jean-Luc Leleu, vous aussi, vous connaissez bien ce village puisque c'est vous qui m'avez incité à rechercher des archives et donc j'en ai trouvé.
Effectivement, parce qu'il y a un lien très fort, hein. De toute façon, il suffit de passer lorsqu'on va vers la mer depuis Caen, plein nord, et on a toujours ce panneau au milieu de la chaussée indiquant Éperon, village de la radio. Effectivement, je vais mettre un bémol par rapport au ton enjoué de ce journaliste. Il est dans son rôle, on est à l'époque de Noël 1948 et donc c'est plutôt les bonnes nouvelles. Mais rappelons aussi ce simple fait, l'après-guerre fut extrêmement pénible. Les Français mangent moins en 1947 que sous l'occupation.
Restez à l'écoute de RFI, nous sommes à Caen, journée de l'histoire, pour évoquer la destruction et la reconstruction de Caen en général et de son université en particulier, au son de Nat King Cole, Nature Boy. C'est justement ce que diffusait la radio française délocalisée à Éperon le 25 décembre 1948.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
L'atmosphère de la musique américaine de l'après-guerre en France, à la radio, Nat King Cole, on s'en lasse pas. Vous êtes bien dans la marche du monde sur RFI, une émission enregistrée en public dans l'auditorium du château de Caen, incarnation patrimoniale des festivités du millénaire de Caen, pendant lesquelles RFI s'associe aux journées de l'histoire pour vous raconter l'histoire méconnue de la reconstruction de Caen en général et de son université en particulier. Avec nous pour en parler, nos invités historiens Jean-Luc Leleu, Christophe Manœuvrier et Louise Daguet. Louise, vous nous avez partagé de nombreuses photographies issues des archives de l'université, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la page de la Marche du Monde sur Internet, et je vous en remercie. Quel choix avez-vous fait et pourquoi ?
Alors, sur la page de la Marche du Monde, vous pourrez voir une photo qui représente le terrain de l'université tel qu'il était en 1944. Et vous le verrez criblé de trous de bombes, de trous d'obus. Et c'est ce terrain-là qui va être choisi pour construire ce qui va être pourtant le plus moderne campus de France, le premier campus paysager de France. Vous y trouverez aussi des images, des adresses offertes par diverses universités, l'Université de Columbia, où se fonde un comité piloté par Horatio Smith, qui se donne comme objectif 100 000 dollars et 100 000 livres pour la bibliothèque universitaire. Vous y trouverez une autre adresse, celle de l'Université de Lausanne, grande marraine de l'Université de Caen, qui, dès 1944, envoie un wagon entier rempli de livres pour la bibliothèque.
Alors, je vous rassure, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était qu'une adresse. En fait, c'est une lettre.
Pardon.
C'est ça, hein ?
Oui, tout à fait. Alors, en 1957, lors de l'inauguration de l'université, les doyens des universités présentes, puisque toutes les universités du monde sont invitées à Caen, mais toutes ne viennent pas, les doyens apportent des adresses qu'ils offrent à l'université. Donc, ce sont des sortes de diplômes qui portent les vœux de meilleure renaissance pour l'université de Caen. Vous verrez aussi des images de la bibliothèque, images de la grande salle de lecture extrêmement moderne, vous verrez, très lumineuse, ou très moderne aussi par le soin qui a été apporté à son mobilier, mobilier qui est aujourd'hui inscrit aux monuments historiques, mobilier qui a été dessiné par Jacques Quinet, qui est alors un grand ébéniste parisien, un grand designer des années 40, et qui fait pour l'Université de Caen sa première commande publique. Donc un mobilier qui est aujourd'hui encore toujours en utilisation par les milliers d'étudiants que nous accueillons chaque jour.
Reconstruction, c'est donc le mot-clé. Et il a son ministère. Écoutez ce document de propagande du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Nous sommes, cher public, en 1950 et il s'agit de mettre en scène l'esprit novateur et moderne des nouveaux logements érigés dans la ville de Caen.
Caen, la ville aux 100 clochers, était un objectif trop vulnérable. Et il n'y a guère d'église ou de chapelle qui n'ait été bombardée, incendiée, écrasé. De mai à décembre 1946, en 8 mois, 1 million de mètres cubes de gravois furent enlevés. Ce gigantesque travail représente 300 000 journées de main-d'œuvre. Lorsqu'enfin les travaux de déblaiement furent terminés, les habitants de Caen reprirent possession de leur ville et s'habituèrent peu à peu à son nouveau visage. Mais tandis que les ruines étaient dégagées, les services étudiaient les moyens de résoudre le problème de la reconstruction. On traçait les plans de la nouvelle ville. Plans qui ne sont pas restés de simples épures, de beaux dessins sur le papier. Ils ont été mis à exécution. Petit à petit, des maisons se sont élevées. D'abord modestes, puis plus importantes. Mais on a voulu que toutes aient de l'air et de la lumière et aussi qu'elles bénéficient des commodités modernes.
Une archive sonore pour nous remettre dans l'époque, dans les ruines de l'époque, puisque l'université, c'est une longue histoire. Ici à Caen, Christophe Manuvrier, elle a son archéologie dès le XVe siècle.
Alors oui, l'université, c'est quelque chose qui compte dans la ville de Caen, parce que Caen est une ville moyenne, dans laquelle, depuis le XVe siècle, l'université tient une place très importante. L'université a été fondée en 1432 avec une histoire très particulière, puisque l'université est créée par le pouvoir anglais qui occupe la Normandie. Donc le pouvoir anglais construit une université à Caen pour former ses cadres, pour former le personnel dont il a besoin. Et il choisit Caen, justement, parce que c'est une ville moyenne sur le modèle d'Oxford ou Cambridge, en Angleterre. En fait, on a coutume de dire que Caen est la troisième université anglaise après Oxford et Cambridge, avec un peu les mêmes principes qui ont veillé à sa construction. Et alors, bien sûr, cette université, elle est importante pendant tout l'Ancien Régime, et puis elle a fermé, comme les autres universités françaises, pendant la Révolution, réouverte au XIXe siècle. Avant la guerre, il faut bien quand même admettre que l'université est en difficulté. On n'est plus dans la grande université qu'elle a pu être au XVe ou au XVIe siècle. Donc c'est une université en difficulté, mais à laquelle les Canets et les Bas-Normands sont très attachés, avec une question au moment de sa destruction, puisque l'université est détruite durant l'été 44, est-ce qu'on va la reconstruire ?
Cette université qui était non pas là où elle se trouve, c'est-à-dire juste à côté de nous au château, mais qui était place Saint-Sauveur, ce qui n'est pas très loin d'ici non plus, mais en tout cas le lieu n'est plus le même. Avant d'écouter une nouvelle archive, vous aimez à dire, Christophe Manœuvrier, que enseignants et étudiants forment une communauté dans l'espace et dans le temps. C'est ça le concept premier de l'université, du campus ?
Le mot université, universitas en latin, signifie communauté. Et on le voit par exemple sur le grand sceau de l'université qui date des années 1432 ou à peu près, et qui est utilisé jusqu'à la Révolution. Sur ce sceau est représentée la communauté des étudiants et des maîtres. Donc cette communauté, elle peut en fait se réunir n'importe où. On peut enseigner n'importe où. Ce n'est pas le bâtiment qui compte. C'est l'existence de cette communauté.
Et ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir témoigner de l'inauguration justement de l'université de Caen en 57. Ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir nous raconter l'expérience de la guerre et de la paix. C'est pourquoi je remercie vivement cette jeune fille de 90 ans que vous m'avez recommandé, Christophe Manœuvrier. Elle a accepté de témoigner au micro RFI de Maxime Grandbert.
Je m'appelle Françoise Jacquineau. Je suis née le 30 novembre 1935 à Paris. Je suis partie de Paris en 1946, je pense.
Quel souvenir vous gardez de Caen et de votre première impression quand vous êtes arrivée dans la ville ?
C'était un choc pour moi, parce qu'on est arrivé dans une ville complètement détruite. Il n'y avait plus que des ruines. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était les poteaux électriques qui étaient complètement échevelés avec les fils qui pendaient dans tous les sens et qui émergeaient de ces tas de ruines. C'était un spectacle de désolation et on avait l'impression que plus personne n'habitait dans la ville. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un vivant dans cette ville. Il n'y avait plus rien, il y avait une ville déserte, comme on en voit à l'heure actuelle en Ukraine, ça n'a pas changé. Des tas de cailloux dans tous les sens. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est que dans ces ruines, émergeaient de temps en temps des fleurs. Je me disais, mais c'est impossible de vivre dans cette ville, il n'y a plus rien, il n'y a personne, comment va-t-on coucher ? On était petits. Et puis, en fait, on ne devait pas coucher à Caen, puisque on a dû aller jusqu'à Évrecy. Et Évrecy, j'ai découvert qu'on allait coucher dans une baraque américaine. Et ça m'inquiétait beaucoup, parce que je me disais, mais on sort d'un appartement confortable. Comment est-ce qu'on va pouvoir dormir là-dedans ?
Alors, vous faites vos études à l'université de Caen. Vous y entrez en 1957. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait comme études ?
J'ai fait une licence d'économie.
Et à quoi ressemblait cette nouvelle université ?
Je n'avais pas de bonne comparaison avec d'autres universités, mais elle m'a paru être un très très beau bâtiment, très moderne, très pur de ligne, qui pour moi me fait penser à certains monuments grecs. Je me souviens qu'il y avait un phénix qui était à l'entrée du bâtiment, dans les jardins, l'idée du phénix, on pouvait penser au renouveau, à la renaissance de la ville.
Un immense merci à Françoise, persuadée que son témoignage n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il dit, ce témoignage, au chercheur que vous êtes, Christophe ?
Il dit beaucoup de choses, mais d'abord c'est très émouvant d'avoir des témoignages ainsi de personnes qui ont connu l'université au tout début. Alors, son père est architecte, hein, si j'ai bien compris. Hein. Elle note l'architecture, elle est sensible. Et puis, le phénix qui arrive en 58, le phénix de Louis Legge, qui est installé là, oui, comme symbole de la reconstruction. Bon, je pense que tout le monde a une idée du mythe du phénix. Il faut savoir qu'il y a plusieurs versions du mythe. Il y en a une, entre autres, qui dit, je crois que c'est la version hébraïque, mais je ne suis pas tout à fait certain, mais qui dit que le phénix vit 500 ans avant de mourir. Or, si on calcule 1432, la fondation, 500 ans, on est à la destruction. Et donc, l'université renaît pour 500 ans. C'est l'idée.
Bien compté, bien vu. Christophe Manœuvrier, quel est le concept architectural ? Parce que Françoise nous dit, c'est super moderne, c'est très clair. C'est de la pierre d'ailleurs, très clair. Hein. C'est pas complètement de la pierre, mais c'est mêlé à de la pierre de la région. Donc c'est très lumineux, mais c'est aussi très moderne. Mais aussi, ça lui fait penser à la Grèce. Alors est-ce qu'elle a juste ?
Il y a effectivement des influences classiques. Néoclassiques, qui elles-mêmes puisent leurs racines dans l'architecture antique. Et on voit bien ce lien aussi à travers le phénix, hein, qui est un mythe antique, mais qui est présent au Moyen-Âge et qui est bien présent, hein, qui traverse les siècles. Donc l'idée est vraiment...
Donc un bâtiment très vertical.
Alors, un bâtiment avec beaucoup de verticalité, mais aussi avec des éléments qui sont des signes repris sur l'architecture de l'ancien palais universitaire qui a été détruit.
Voilà, et puis on est pour la première fois dans une université installée dans un immense jardin, avec des résidences universitaires, avec une pistoche... Trop bien, avec des équipements sportifs. Quelques années après, il va y avoir même une crèche. Enfin, et d'ailleurs, aujourd'hui même, lorsqu'on se promène dans cet espace qui est complètement connecté à la ville, où il n'y a pas de barrière, où on peut y circuler librement, on croise des gens de tous les âges, on croise des enfants, et pas seulement des universitaires et des étudiants.
Alors c'est en effet, l'université était dans le cœur de la ville, hein, Place Saint-Sauveur, pour ceux qui connaissent un petit peu Caen. Tous les témoignages disent que c'était une espèce de sanctuaire dans lequel on n'entrait pas, que la communauté universitaire, avant la destruction, vivait en vase clos. Et là, la volonté des constructeurs, de ceux qui pensent ce campus, c'est vraiment de l'ouvrir, au contraire, d'en faire un élément urbain, un aménagement urbain. Tout le réseau de voirie autour de l'université porte la trace de ces bienfaiteurs. Alors, il y a l'avenue de Lausanne, il y a l'avenue d'Édimbourg, il y a l'avenue de Bruxelles, il y a la rue Horatio Smith. Enfin, voilà, tout ce quartier, en fait, au-delà, porte la marque de cette reconstruction et de cette solidarité internationale.
Symbole des symboles, vous l'avez cité, symbole toujours présent à l'entrée de l'université, la sculpture de Louis Lègue, le fameux phénix, dont il nous parle lui-même dans cette archive de 1956.
J'ai eu mission de planter une espèce de signal, de fanion, de fleur, de ce que vous voudrez, une flamme. Et alors c'est cette idée de flamme que j'ai reprise parce que monsieur le recteur d'Or m'a expliqué que le phénix pouvait être l'image, le symbole de cette université qui a été pilonnée, brûlée pendant la guerre et qui renaissait de ses cendres. Immédiatement, j'ai compris qu'on pouvait peut-être tirer un parti de ces courbes, de ces flammes presque baroques, en contraste avec les horizontales et les verticales qu'Henri Bernard avait installées sur ses façades. Et il faut dire qu'au fond de sa composition, il y a un péristyle ajouré qui donne une transparence sur une colline. Et nous avons pensé ensemble que des flammes, avec leurs courbes baroques, pourraient contraster et en même temps s'harmoniser avec ces bâtiments rectilignes et cette transparence. Et tout en haut de ces flammes, on a mis ce phénix, on va mettre ce phénix, n'est-ce pas, qui est un oiseau, alors presque figuratif, tout le monde pourra y reconnaître un oiseau qui s'élance.
La voix du sculpteur Louis Lègue pour évoquer le phénix monumental en métal noir, alors que l'université est à la couleur de la pierre blanche. Si vous deviez d'un mot dire à quoi vous associez justement ce phénix, vous me diriez quoi, Jean-Luc Leleu ?
Très simplement et presque naturellement, je parlerais de Renaissance.
Christophe ?
Le phénix, il n'est pas noir, en principe, il est coloré, il est rouge dans le mythe. Moi, c'est le phénix que j'ai vu de toutes les couleurs bariolées à chaque mouvement social.
Louise ?
Pour moi, c'est le phénix des humanistes. C'est le phénix qui est à la fois, qui renaît bien sûr, mais qui est aussi porteur d'un message de paix par la connaissance et par la science.
Alors justement, c'est très intéressant parce qu'il faut bien imaginer cette dimension internationale de ce projet de campus. On est à la fin des années 50 et c'est une première, cette idée de la paix par l'éducation. Hein, on est quand même très marqué, traumatisé par la guerre. On a perdu des gens, on est blessé, on est en souffrance. Et il y a vraiment cette utopie, cette idée de la paix par l'éducation qu'incarne finalement ce projet universitaire ici à Caen. Et puis il y a aussi cette diversité des nationalités, Louise Daguet, à travers les étudiants.
Oui, tout à fait. L'université est dès le début orientée pour accueillir les étudiants du monde entier et particulièrement des étudiants anglo-saxons et scandinaves. Et cette orientation-là qui trouve sa forme très rapidement dans l'ouverture des cours d'été et qui accueille des étudiants qui viennent effectivement des mondes anglo-saxons et scandinaves se reproduit aussi dans les collections de sa bibliothèque collections qui sont reconstituées à la fois par dons, comme je vous le disais, dons internationaux, mais aussi un grand programme d'acquisition soutenu par la direction des bibliothèques et son directeur Julien Quin, qui, ce n'est pas un hasard, est représentant de la France à l'UNESCO.
Jean-Luc Leleu, en tant qu'historien de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est déjà une préfiguration de ce qu'on connaît aujourd'hui comme programme Erasmus, c'est-à-dire ces échanges à travers l'Europe d'étudiants, d'université en université? Qu'en pensez-vous?
Erasmus, ça reste fondamentalement un projet de l'Union européenne qui veulent justement, avec l'idée, pas des pères fondateurs, mais de ceux qui vont poursuivre leur œuvre, finalement aussi, bien sûr, la paix, mais aussi que les étudiants forment une nouvelle génération qui désarme des préventions, qui se connaissent, qui peuvent tomber aussi amoureux les uns les autres et donc faire des bébés Erasmus. Là, on est dans les années 50-60, on est encore dans donc une préfiguration, mais on n'est pas encore dans le modèle abouti d'Erasmus tel qu'il a été pensé plus tard.
Des étudiants qui peuvent tomber amoureux, qui se retrouvent au cinéma ou dans les bals de leur association, viennent se produire Pierre Dieuzet et son orchestra. Écoutez ce morceau, Little Lawrence, Tribute to Jelly Roll Morton, interprété lors de l'un des tout premiers bals des étudiants de l'université de Caen à la fin des années 50. On a vérifié dans les archives de l'université. Cool d'être étudiant à l'université de Caen, entre ses jardins, sa piscine, son ciné-club, sans oublier son mobilier design et sa bibliothèque, gérée par votre héroïne, Madeleine Dupasquier. Pour quelles raisons tenez-vous tant à lui rendre hommage? Qu'avez-vous découvert, Louise Daguet?
Bien, Madeleine Dupasquier, c'est une femme qui a été tout à fait oubliée. Et donc, c'est pourtant elle qui a permis à la bibliothèque pendant la guerre de ne pas péricliter. Et c'est elle qui, devenue directrice de la bibliothèque universitaire en 1944, revenue de l'hôpital de Bayeux où elle était infirmière, reprend la direction de la bibliothèque universitaire et c'est elle qui va piloter toute la reconstitution. C'est elle qui va être la grande maîtresse du programme d'acquisition qui va se développer à partir de 1944 jusqu'en 1960. Et elle va créer vraiment une bibliothèque qui a encore aujourd'hui un fonds patrimonial remarquable parce qu'elle l'a acheté. pas seulement parce qu'on l'a donné. Et ça, c'est remarquable. Et c'est vraiment quelqu'un qui, dans sa correspondance, est extrêmement drôle. C'est une femme qui s'impose dans un milieu d'hommes, puisque les reconstructeurs de l'université, ce sont des hommes majoritairement. Et c'est cette figure de Madeleine du Pasquier qui va permettre vraiment à l'université de prendre toute sa profondeur historique. Et sa devise, c'est la culture, c'est aussi la joie par la beauté. Et le but de Madeleine du Pasquier, c'est à la fois de donner une profondeur historique, mais c'est aussi de permettre aux étudiants qui sont dans une situation, qui sont extrêmement démunis, c'est aussi de leur permettre d'accéder à la beauté. Et je pense que, voilà, c'est aussi ça, les bibliothèques.
Bravo. Que reste-t-il, ce sera notre conclusion, que reste-t-il de cette utopie qui est celle de l'UNESCO, la paix par l'éducation, Jean-Luc Leleu?
Vous parlez de cette utopie en 2025, à l'heure où les, justement tout ce que l'on, tous les acquis que l'on pensait acquis définitivement, finalement on s'aperçoit que, encore une fois, la paix, la liberté, en fait les quatre libertés chères à Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt en 1941, les quatre libertés qui sont à la base justement de la Charte des Nations Unies en 1942 et puis ensuite à l'UNESCO, l'UNESCO et puis les Nations Unies, pardon, c'est là clairement sont mises à mal, mais il ne faut pas désespérer, parce que c'est justement tout le prix du... On le voit, on parlait de Madeleine du Pasquier, mais le combat, il est partout, il est permanent. Et la vie, la liberté, la capacité de s'exprimer, de s'épanouir, ça mérite de beaux combats.
Et ça, c'est ce qu'on peut dire aussi à l'université. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir accompagnés autour de ces archives pour nous raconter à la fois la grande et la petite histoire de l'université de Caen. Un grand merci à nos invités, un grand merci au Millénaire de Caen et à toutes ses équipes. Les festivités, c'est toute l'année. Retrouvez le programme et les références bibliographiques sur la page de l'émission La Marche du Monde sur RFI. Premier campus de France. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Nicolas Benita, Sophie Janin, Valérie Nivelon. Bravo et à bientôt sur notre appli, vous vous souvenez, RFI, Pure Radio, rubrique Histoire. Merci et à bientôt.